Oui, bonjour les AMG. Didier de Nogent. Voilà, je viens d'apprendre par les informations de 14h sur France Inter que le Parti Socialiste votera oui à la ratification parlementaire sur le traité simplifié. Eh bien, voilà, la boucle est bouclée. Le PS a toujours trahi le peuple français, n'est-ce pas? En 40, il a voté les plats pouvoirs à Pétain. En 83, ça a été la rigueur. Après, ça a été le traité de Barcelone. Donc, voilà, la boucle est bouclée. Décidément, ce PS est indécrottable. Je n'ai qu'une chose à dire. Sale traître. À bientôt.
Salut à tous, c'est Eric de la fac de Caen. Donc on est en train de bloquer les bâtiments, ce que ça concerne, donc évidemment, je précise, les sales gauchistes, cette fois, reviennent contre la loi d'autonomie des universités et pour la défense des services publics en général. Voilà, donc avis aux amateurs, avis au gouvernement, gare à vos.
Oui, bonjour, c'est Mermet. Voilà, c'est Didier du département du Var. Il est 7h du matin à Toulon. Et je viens de voir des gens se faire expulser dans la rue, quelques Roumains, une dizaine de Roumains à peu près. Nous avions en face trois fourgons de policiers, l'adjoint au maire de Toulon, des gens en combinaison, comme si on allait ramasser des microbes. Il n'y avait que trois personnes qui étaient couchées sur du béton froid. Quand j'ai vu l'agent maire, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'on allait faire de ces gens? Il m'a dit, ils n'ont pas de travail, j'ai pas de temps à perdre. S'il n'y a pas d'autre solution, on les expulsera. Voilà. Vous voyez ce qu'il m'a répondu, l'agent maire de Toulon? Il m'a dit tout simplement, monsieur, les gens qui ne travaillent pas, eh ben, ces gens-là doivent retourner dans leur pays. Très bien. Voilà un petit peu la vague Sarkozy qui envahit à peu près toute la France. Donc voilà, je suis assez... Et en plus on prend des photos, hein. Il y avait une dame, un policier qui prenait des photos de ces gens-là. Comme des trésors ou je sais pas trop quoi. Enfin, je suis assez écœuré. Voilà. Allez, bon courage à tous. Au revoir.
Salut Daniel, salut tout le monde. Je rappelle qu'à l'aise dans le Gard, il y a trois grévistes de la faim depuis trois jours dans l'agence France Télécom, place des martyrs de la résistance. Ils font grève parce qu'ils sont mutés d'office vers d'autres cieux et avec 27 autres de leurs camarades. Alors nous appelons les gardois à venir les soutenir, à l'aise dans le Gard. France Télécom veut virer des gens, alors ultime combat, ils se battent. Ils mettent leur vie en danger. Bonne journée.
Tonio nous a quittés brutalement. Embolie pulmonaire, paraît-il. Tonio travaillait à mi-temps thérapeutique, épuisé physiquement et moralement. À quelques mois de la retraite, la médecine du travail lui signifiait sa reprise à temps plein dans un nouveau service, facile pour gérer un stress de plus en plus aggravé. On le voyait malade, dépressif, à bout. Mais au boulot, c'est marche ou crève. Le syndicat, vaste blague, à la solde du patron... Personne ne s'est battu pour qu'il réintègre son poste de nuit. On l'a laissé faire ses quelques 100 kilomètres pour venir trimer en sachant qu'il suivait un traitement béton. En se disant, un jour, il a craqué. Tonio, aujourd'hui, je veux gueuler que le boulot t'a achevé. Que je regrette de n'avoir rien fait. Mais aujourd'hui, il est trop tard. Tu nous as quittés. À travers toi, je souhaite rendre hommage à tous ces salariés victimes de harcèlement sur leur lieu de travail. Et je veux gueuler bien fort que quoi qu'il arrive, ils ne mourront pas.
Alors, comme tous les auditeurs de la Bastille, j'y suis. Ce mardi 6 novembre, à 15h05, j'entends le message de Daniel, en direct de Colombie, enfin qu'il avait laissé à 11h21. Et puis, moi, je commence à couper. Et j'entends Olivia Gesbert qui dit « On a perdu Daniel Mermet ». Alors, je vous dis, pas de panique. Pas de panique. J'appelle Nicolas, qui est à Washington, et je lui dis de faire un détour par la Colombie pour aller chercher Daniel. Ne vous inquiétez pas, Nicolas va le ramener. Ainsi que Guy et Antoine. Mais pas de problème. Il ramènera tous, Nicolas. Putain, heureusement qu'on l'a. Bon, j'ai eu un doute. Je me suis dit, et si c'était un coup monté? Si c'était Schlesinger qui avait... Enfin, Sarkozy qui avait dit à Schlesinger, t'envoies mes armées en Colombie, d'accord, on le fait prendre par les Sharks en échange de Betancourt. Mais je vois pas trop l'intérêt des Sharks, je suis dans West Side Story, là. Des Farks, je veux dire. Des Farks. Bon, l'avantage avec les Farks, Daniel, si jamais tu dois rester otage, c'est que si tu peux pas téléphoner, tu peux toujours Farkser. Bon, allez, je déconne, mais tu vas revenir. Non, mais je t'ai dit, Nicolas, il va s'en occuper. Bon, moi, j'ai confiance en Nicolas.
Toujours en Colombie, toujours à droite, à gauche, dans ce pays. Hier, on était avec l'unité des droits de l'homme de la Fiscalia, qui est un organe de la justice colombienne, qui procède à des exhumations des victimes du conflit armé qui continuent de ravager la Colombie. Ce sont des exécutions qui sont imputables aussi bien à la guérilla qu'aux paracos, à ceux qu'on appelle les paracos, c'est-à-dire les unités paramilitaires qui tuent, qui torturent et qui terrorisent encore plus, sinon autant que la guérilla, mais étrangement, dont on entend beaucoup moins parler, même si une certaine démobilisation qui laisse les observateurs sceptiques est en route. Voilà, c'était 5 heures de marche dans la forêt, dans la boue, mais c'était absolument magnifique, et surtout, on a pu assister au travail de ces gens qui essayent qu'un peu de justice arrive dans ce pays, dont tous les malheurs viennent justement de l'injustice sociale très très violente. Et ce matin, à la télévision, en revenant ici à Bogota, on a vu des images étonnantes. Il y a eu une tempête hier sur Bogota qui a fait envoler des tôles, des toitures, et y compris des tôles, des toitures, des bidonvilles de Bogota. Mais ça a été un véritable vol de tôles sur la ville qui sont tombées. C'est une métaphore terrible. Les bidonvilles, les toits de tôles des bidonvilles qui volent et qui viennent comme des projectiles, des bombes, s'écraser sur les quartiers riches. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça pourrait être une métaphore. Aujourd'hui, au début d'une rediffusion, d'une série de rediffusions sur Crown, sur les mutins de 1917, il y a exactement 10 ans, on vous avait présenté une série de reportages et d'évocations de ces mutineries de 1917, et spontanément, on avait lancé l'idée que on pourrait peut-être fleurir les monuments aux morts français d'une rose rouge en hommage aux mutins de 1917. Et, ma foi, ça avait pris, et un peu partout, effectivement, en France, des roses rouges ont été déposées sur ces monuments aux morts à la mémoire de ces héroïques mutins. Alors peut-être qu'on peut recommencer cette année, donc je vous suggère ça, de penser le 11 novembre à poser une rose rouge en hommage à ces hommes qui furent courageux et qui ont sauvé quelque chose de notre mémoire et de notre honneur. Voilà, aujourd'hui donc, les mutins de 1917, Crown.
On n'en sort plus de cette guerre de 14, elle est toujours là. Il y a un type en 14 qui a dit « Je leur ai juste repris la longueur de mon corps. » Il est tombé et je leur ai repris la longueur de mon corps. 1m80, 1m70, 1m65, qu'est-ce que c'est? C'est de la terre, ça.
En parlant de l'Arc de Triomphe, qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger, devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé.
Ça fait le bonheur.
Ça fait le bonheur de Le Pen.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Georges Mermet. Là-bas, si j'y suis, la chanson de Crown.
Flight number 2, arriving from New York.
Au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va rejoindre les tranchées.
Notre tâche est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot, même sans tambour, même sans trompette. On s'en va là-haut en baissant la tête.
De ces messieurs-là, ceux qu'on le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on prêche. Mais c'est fini, car les fonctions vont tous se mettre en grève.
La chanson de Craon, la chanson des révoltés, c'est cet air que murmuraient les poilus dans les tranchées du chemin des Dames en avril 17. L'offensive Nivelle était tellement absurde, tellement indigne, qu'une partie de la troupe s'est mutinée, refusant de monter au front, de mourir pour mourir.
Ce ne sont pas des traîtres. On ne peut pas donner ce nom-là à ces gens-là. On ne peut pas. Et je ne le dis pas en tant que mère, je le dis en tant qu'homme. Et moi, c'était mes grands-pères, c'était mes grands-oncles, c'était des gens comme moi qui avaient mal quand ils se coupaient, qui étaient heureux quand ils buvaient une bonne tasse de café. Vous voyez, non, il n'y a pas de traîtrise là-dedans. Il n'y a pas de traîtrise. Il y avait un moment de ras-le-bol.
Ces gens-là étaient tous soldats qui s'étaient battus remarquablement. Hein. C'est tous soldats qui n'ont jamais refusé de se battre face à l'ennemi, mais qui ne pouvaient pas accepter qu'on les fasse remonter alors que ce n'était pas préparé, que c'était une pure bûcherie. La mutinerie, c'est vraiment un cri de dignité humaine. De la part de gens, ce n'est pas possible. Un être humain, ce n'est pas de la boucherie.
Il a parlé par les...
Après l'échec de l'offensive Nivelle, Pétain reprend le commandement des armées et met de l'ordre dans la troupe. Plus de 3000 condamnations sont prononcées à l'encontre des mutins, dont 550 à mort. Finalement, une cinquantaine seront exécutés. 80 ans plus tard, l'évocation de leur mémoire glace encore le chemin des Dames, un chemin de la gloire aussi pour ceux qui sont tombés sous la mitraille française.
C'est un Craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Collante et saoulante, mélodie mélancolie et jolie comme la guerre, selon Apollinaire, qui fut blessé au front et au front sous les frondaisons du bois des buttes. Une étoile de sang me couronna jamais, écrivait Guillaume, prémonition des poètes. 50 ans avant, il songeait, c'est sûr, au Tché, le même rouge au front étoilé. Guillaume et Ernesto voisinent sur l'étagère de nos panthéons imaginaires. Collante, la valse lente de terre, d'acier, de merde et de sang. Dans la pente, j'ai eu la joie, le bonheur de parler là avec Yves Gibeau, à vif, toujours, marchant au bord des larmes et des labours, tâchant d'arracher quelque chose à la guerre et murmurant cette chanson pour danseur de sanglots sur le chemin des Dames. La chanson de Craon qu'il faut prononcer crâne, comme les crânes qui remontent encore toujours et toujours à la surface. Crâne de Craon, on est pris de tendresse soudain pour la chair des disparus, des crânes de Craon, chair de ces hommes si jeunes et si hommes. Une barbe à peine, un duvet, une peau rose de gamin qui recouvrait les crânes de Craon. C'est le visage de Georges, mon père, enfant. C'est la France qu'on évite. C'est la France qu'on évite. La punie où l'on va aujourd'hui, celle des cimetières militaires, celle où les oiseaux volent sur le dos pour pas se mettre le moral en ruine. Mémoire collante, mémoire qui hante, pourquoi revenir encore, encore ici, alors que je sais d'avance au retour le goût presque louche d'amour et de dégoût dans la bouche. Haine, Somme, Marne, morne paysage d'un néant tenace, le désespoir, exactement, morne, oui, morne plaine, pleine, toujours de bombes à retardement, d'obus, de grenades à gaz, depuis 80 ans, fragments de mâchoire, boutons de capote, chaussures, tibias, gamelles que la terre se refuse à avaler. Yves Gibault, bouleversant, m'avait montré un petit encrier et j'imaginais Georges, mon père, écrivant à son frère François, 60 rue de la Villette à Paris, « Tout va bien ici, je te salue et te charge d'embrasser nos chers parents. » François mourut, Georges vécut et fit contre tout monument de mort un monument de vie. 8 enfants dont je suis, fragment d'une mémoire fantôme. Dans cette terre maudite, presque un quart de notre France ravagée. Terre des tranchées, toujours visible aujourd'hui. On peut passer le doigt sur le bord de la plaine. Ici, 1917, la boucherie la plus infâme. L'armée, le pouvoir, fit tuer en 10 jours 155 000 petits soldats français. Oui, un crime contre l'humanité, contre l'humain, contre l'amour sur ce chemin des dames. Serions-nous trop encombrés de mémoire, d'une mémoire qui nous empêcherait de voir le présent? La seule mémoire indispensable est celle qui maintient vivante la source du droit. C'est beau. Mais là, il y eut un sursaut contre la barbarie, un miracle contre ce mal normal, une fragile chanson. Ils ont mis leur crosse à l'envers, ils ont refusé de marcher, ils ont refusé de mourir, ils se sont révoltés parce que c'était la seule façon de sauver quelque chose d'humain et sans doute aussi quelque chose de la France. Le beau geste fut de nous dire que la désobéissance est une chanson d'amour, que la liberté est une valse lente, que l'insoumission se danse.
Pendant 4 années de furie, l'Europe s'est acharnée à se détruire. Elle a sacrifié la plus belle de ses richesses, la plus irremplaçable. Une jeunesse ardente, la plus belle jeunesse du monde. La jeunesse civilisée.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va rejoindre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Trône sur le plateau qu'il faut laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. femme. Cet acronyme sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, et c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, ayez-la de votre peau.
Ça c'est la plaque au monument aux morts de Crane. Et là-dedans, il y a un Julien Janter, c'est-à-dire c'est votre ancêtre.
Oui, c'est un grand-oncle. Oh. C'est le frère de mon grand-père. Et il a été tué tout près d'ici, au ravin du Paradis, tout au début de la guerre. Mais quand son régiment est passé par Crane, tout au début, il est passé par Crane. Et mon grand-père est venu au-devant de lui, lui a porté son paquetage sur à peu près 1,5 km. Du bas du village jusqu'à la sortie du village de Crane. Il est passé par son village. Et à la sortie du village, il y a un officier qui lui a dit « Allez gamin, laisse ton frère maintenant, retire-toi des rangs. » Et il a été tué 3 jours après au ravin du Paradis ici.
Le ravin du Paradis, tué où
ou... En faisant la soupe pour ses copains, quoi.
Quel âge ?
Mais il avait 27 ans, 2 enfants.
Et il y a des milliers de noms comme ça sur des centaines et des milliers de monuments aux morts en France.
Toutes les familles ont été touchées. Toutes les familles ont perdu quelqu'un pendant ces événements-là. Toutes les familles.
Qu'est-ce qui est écrit là ? Tous unis comme au front. C'est beau, hein ? Tous unis comme au front, les pauvres. Oui. Les pauvres. Et puis là, vous avez un bouquet de fleurs, de coquelicots, de...
Bleuet.
De marguerite et bleuet. De bleuet et de blé, hein, qui me rappelle la...
Oui.
Et puis la chanson de Craonne, là-bas.
C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Craonne, la chanson de Craonne, chanson longtemps, très longtemps interdite, évidemment interdite en 14. Cette chanson fut celle de des mutineries, fut celle de l'insoumission des soldats après l'offensive Nivelle du 16 avril 1916, une des plus grosses imbécilités de l'histoire militaire, de l'histoire de notre pays, et à l'intérieur d'une guerre qui fut une des probablement des plus effroyables aventures de l'histoire des hommes. Et là,
au bout de 155 000 morts du côté français en 10 jours, donc 15 500 bonhommes par jour au minimum. Alors ils se sont révoltés, il y a eu des mouvements de révolte et des mutineries. Qui furent ce que ce monsieur disait, un geste de dignité, un mouvement de dignité. Ce qui a illustré magnifiquement, merveilleusement, ce mouvement, c'est cette chanson de Craon, dont on ignore toujours l'auteur, qui fut écrite sur une valse qui était à la mode à l'époque, qui était une valse lente, une chanson d'amour, et qui fut rapportée par Paul Vaillant Couturier. Alors nous voilà à Craon, petit patelin, au pied donc du chemin des Dames, avec les 69, combien sont-ils, 69 ou 70 habitants de ce petit patelin, et avec le maire Noël Janteur. Ils sont absolument formidables. Si vous devez un jour espérer quelque chose de votre pays, de ce pays, il faut aller à Craon. Ces 70 personnes sont extraordinaires. Ils vivent dans un endroit qu'on pourrait supposer sinistre, un endroit où on n'a pas tellement envie d'aller, dans ce quart de France qu'on évite, tant la mémoire, 90 ans après, toujours là, prégnante, terrible, ces choses qui remontent, cette terre de France qui refuse d'avaler tout ça, qui refuse de gober ce qui s'est passé là, eh bien, ils en sont les témoins, mais des témoins vivants, des témoins, j'allais dire gays, tout à fait, sont des gens gays et vivants, à commencer par leur mère, Noël Janteur. Alors on est là, sur ce chemin des Dames, donc, et il y a quelques années, j'avais eu la chance, avec Brigitte Vincent, de rencontrer là, de me promener là, avec Yves Gibeau, que vous connaissez, qui est un écrivain, qui a écrit entre autres « Allons enfants », qui est un plaidoyer efficace contre la guerre, mais pas comme ça, c'est pas des mots, c'est pas non à toutes les guerres, c'est quelqu'un qui vivait ça dans sa chair, avec une sensibilité magnifique qui était la sienne, et nous avait fait l'honneur de passer quelques instants avec lui, fragile.
Alors là, on suit le chemin du vieux cimetière. On va aller sur la tombe d'Yves Gibeau, qui a désiré être enterré ici, alors que normalement, elle n'aurait pas dû être enterrée ici. C'est parce que j'ai donné l'autorisation de l'enterrer dans le vieux crâne. Ouais. Oui, parce que, bon, ben... C'est ici.
J'ai pas compris pourquoi, clairement, il voulait être enterré là, Yves.
Mais c'est parce que lui, il avait une admiration profonde pour les gens qui avaient fait la guerre 14-18. Parce que je crois qu'il était un petit peu plus sensible que les autres, où il avait gardé sa sensibilité d'homme, et il ne comprenait pas qu'on ait oublié tous ces gars-là, tous ceux qui avaient laissé leur peau ici, qui avaient souffert, parce qu'il faut dire quand même que le chemin des Dames, on n'en parle pas beaucoup, parce que c'était une erreur colossale politique et militaire. Le 16 avril 17, en 10 jours de temps, ou 12 jours de temps, on a eu entre 150 et 180 000 morts et disparus.
Français,
du côté français, je parle. En 10 jours de temps, sur une crête de 20 km, il y a eu 1 300 000 hommes de rassemblés pour monter pour mener l'attaque, si vous voulez. Donc la décision a été prise par des militaires français, par des politiques français. Donc on a rassemblé 1 300 000 hommes pour les envoyer à la boucherie volontairement. On le savait très bien. Ici, c'était une position offensive, alors qu'on savait très bien qu'on ne pouvait pas la prendre. On ne pouvait pas la prendre. C'était impossible. Les Allemands étaient sous terre, étaient à l'abri, totalement à l'abri. Voilà. Donc, même les 400 obus en 4 ans qui sont tombés au mètre carré ici.
400 obus
au mètre carré, d'après les statistiques, sont tombés ici. C'est le point le plus fort de avec Verdun, de la guerre 14-18 et de la Somme, si vous voulez. Mais le crâne, on n'en parle pas. Vous voyez, trois quarts des livres ont été interdits hein, sur cette période-là et sur ce site-là, ben, ils sont encore interdits. Hein. La chanson encore de Craon a été interdite jusqu'en 1974. Je crois que c'est Giscard d'Estaing, en 1974, qui a levé l'interdiction de la chanson de Craon.
Mais non, c'est pas possible. Oui. C'est une tombe très très modeste. Hein. C'est quelque.
Ce qu'il voulait.
Ouais. Et c'est vous qui mettez les géraniums.
Ben, c'est quelques amis. C'est quelques amis.
Yves Gibeau, écrivain, 1915-1994.
Oui. Moi, je viens seulement pour me recueillir, pour retirer les pommes de pin, pour... Quand j'ai une bête qui se sauve et puis qui vient lui marcher sur sa tombe, j'ai pas honte de le dire. Et lui, je crois qu'il en est fier. Je viens boucher les pas malgré tout, parce que ça arrive, on peut pas raisonner les bêtes. Hein, ils sont... Donc ça arrive qu'il y ait une bête qui se sauve, qui vienne le voir. Alors je lui dis, tiens, tu vois. Il vient de saluer aussi, quoi. Oui, vous savez, il est bien, là. Il est bien. Le soleil levant, vous voyez. Le soleil levant. Face à la plaine de Champagne.
C'est ce qu'il voulait, ça ?
Ah oui, 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 c'est... Ouais. Il veut pas. On va se taire deux minutes. Ici, c'est une drôle de solitude. Hein. Il y a encore plein d'hommes en dessous, hein. Encore plein d'hommes partout. Quoi. On n'est jamais tout seul ici. Pas seulement par le fait de la nature, mais si on a un petit peu d'attache avec son histoire. Avec...
Vous retrouvez des corps, des...
Oui, oui, oui.
Ah oui ?
Oui. Ah oui, encore, il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 ans, j'en ai encore retrouvé un. Mais on ne peut plus les... Puis, de toute façon, ce n'est pas dans mon esprit. Ils restent où ils sont parce que c'est là qu'ils sont... Mais si, la dernière fois, celui que j'ai sorti la dernière fois, bon, ben, les ours, ils étaient... de la farine, si vous voulez, pour donner, pour dire, est-ce que...
faire une... Les cendres.
Les cendres, quoi. Les cendres, dès que vous les touchez, poum. On a l'impression quand même qu'on n'a pas le droit de les toucher. Parce que dès que vous les touchez, elles disparaissent, quoi. Oh, tiens, faut plus les toucher, quoi. Mais par contre, j'ai retrouvé son masque à gaz, j'ai retrouvé ses chaussures, j'ai retrouvé ses lanières de... J'ai retrouvé ses boîtes de cirage, j'ai retrouvé ses grenades, j'ai retrouvé son obus qui était... son fusil... toute la culasse de son fusil, j'ai retrouvé son casque, j'ai retrouvé son bidon avec le bouchon en liège dessus. Le bidon, il n'est pratiquement pas rouillé. Mais vous savez, c'est une sacrée émotion quand même. Hein. J'ai beau avoir l'habitude, mais on ne s'habitue jamais à ces choses-là. Jamais. On est aussi perturbé que vous si vous le découvriez. Quoi. Moi, je suis à chaque fois perturbé. Quoi.
Et la plaque, vous n'avez pas trouvé?
Non, on n'a pas trouvé la plaque. Non. On trouve de temps en temps, on trouve.
Alors si on a la plaque, on retrouve
On peut retrouver la famille, on peut retrouver... Oui.
Ça s'est arrivé, ça?
Oh oui, papa, il en a sorti... Une fois, je crois qu'il en a sorti 17 au même endroit. Oh ben ici, si vous voulez, c'est... Ici, ça a été terrible, quoi. Pendant ces 10 jours-là, c'est affreux, quoi. C'est affreux, même... des fois, je préfère même plus y penser. Par moi, je me dis... C'est dingue. Alors les gars, ils n'avaient pas trop bouffé. Ils étaient pas bien... Ils dormaient jamais, hein. Quand ils étaient 8 jours au front, ces 8 jours, ils dormaient pratiquement pas. Ils étaient avec les rats, avec tout ça. Et puis, ils savaient qu'ils allaient laisser leur peau. Hein. Là, il n'y avait pas de chichi, vous savez. Hein. Il n'y avait pas de chichi. Hein. Ouais. Moi, il y a quelques vieux, quelques anciens combattants qui sont venus terminer leur vie ici, qui nous parlaient de ça. Et dont un, Père Goujot, qu'on l'appelait. Il a perdu son œil dans une de mes terres. Il venait me voir quand je travaillais la terre. Il venait me voir. Il me dit, tiens, tu vois, j'avais 16 ans, je suis sorti de ce boyau-là. On a fait 150 mètres. J'ai perdu mon œil, là, tu vois, qu'il me disait. Alors, vous savez, la journée était le quart gâché quand c'était comme ça. Non seulement parce qu'il venait me parler, je m'arrêtais parce que c'était un devoir pour moi de l'écouter. Puis j'ai appris beaucoup de choses. Mais même après, vous êtes perturbé, quoi. Vous imaginez un gosse de 16 ans qui perd un œil, qui perd une oreille, qui perd un bras. Et...
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'était ils étaient vachement jeunes.
Les gamins de 16 ans, on les envoyait au combat comme ça. Ils partaient, ils me racontaient, ils partaient à 350, ils revenaient à 50, 60. Ouais. Puis ils n'avaient même pas le droit de relever leur copain, un copain qui était blessé là, qui était embourbé. Et non, c'était l'attaque. Je parle du 16 avril 17 surtout. Hein. C'était l'attaque, fallait prendre. En 48 heures, on devait être à Lens. Vous voyez, on a fait 100 mètres à peu près. Il y a 100 hommes à la minute qui tombaient ici. 100 bonhommes à la minute. Ils ont démarré à 6h du matin, le 16 avril à 6h du matin, à 7h, il fallait arrêter. Celui qui était censé, à 7h, il fallait arrêter. Ça a duré 48 heures sans arrêt, les attaques. Puis ils ont repris, ils ont pris le plateau que le 5 mai. Mais ils ont laissé des...
Enfin. Une des plus grandes boucheries de l'histoire, là.
Ben, je sais pas si... Hiroshima, je crois, pour faire des comparaisons macabres qu'on ne devrait pas faire, 80 000 morts, bombe atomique. Ici, 153 000 morts, 40 ans avant, 30 ans avant. Et on n'en parle pas. Il n'y a aucune bataille comme celle-là. Ici, aucune dans le monde. Aucune. Mais aucune. Je ne comprends même pas que... Crâne, le nom de chemin des dames, on ne devrait jamais en parler sans avoir la larme à l'œil. On a tous laissé des grands-parents. Tous.
Ouais.
Mais pas seulement des Européens. Mais les Afriques du Nord, les Sénégalais...
Il y avait les coloniaux.
L'attaque du 16 avril, mais 3 jours avant, les Sénégalais étaient en train de s'entraîner à bord des Mimosas. 25 degrés à l'ombre bientôt. On les a amenés ici, il faisait moins 12. Les gars ne sont pas sortis des tranchées. Ils sont tous morts dans les tranchées. Ils ne pouvaient même pas porter leur fusil, ils ne pouvaient pas mettre la baïonnette. Gelés sur place, les gars.
La viande, quoi.
Là, voilà, oui, la viande. C'était, il fallait faire l'attaque. Fallait faire, on ne s'occupait pas des pertes. De toute façon, on ne s'occupait pas des pertes. Mais c'est ici, Chemin des Dames, Crane, Lafaux, Cernier-en-Lanois, tous ces petits villages-là. Mais on devrait être... le canton de Crane, en particulier, c'est le canton qui a souffert le plus de toute la guerre. Le plus. Il n'y a jamais aucune bataille comme ça, aucune.
Et ça, c'est le côté français du côté allemand, on sait.
Ah oui, bon, c'est à peu près, on dit, après, c'est à peu près pareil, vous savez. C'est à peu près pareil. Hein. Donc, il y a eu à peu près 300 000 morts sur 10 jours ici. D'ailleurs, les Allemands, quand ils sont partis, quand ils regardaient le chemin des dames, ils disaient, c'est notre cercueil à grande échelle.
Pas penser à eux sans une larme à l'œil, dit Noël Janteur, le maire de Crane, autrement dit Craon, ce petit village de 69 habitants aujourd'hui qui a donné son nom à la plus belle chanson de ce siècle, probablement. Mais quel sens aurait cette larme ? Faut-il se dire que la guerre, c'est, on n'y peut rien, que c'est une fatalité, ou bien alors que c'était la faute à Nivelle, au général Nivelle, qui était un sacré con, ou alors à un autre général, Mangin, ou encore à quelques bévues militaires, et puis voilà tout, il y aurait comme ça de ces hommes qui suffiraient à ce que la force de recommencement puisse quand même bel et bien être là et promettre. Et puis il y a ceux qui à l'issue de cette invraisemblable boucherie, ont compris quelque chose. Quelqu'un comme Anatole France, qui était loin, bien loin d'être un dangereux bolchevique, même à l'époque, disait « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ». Et cette phrase, à elle toute seule, dit bien ce que fut cette guerre. Est-ce que cette phrase a encore du sens aujourd'hui ? Très probablement, en tout cas, ça en a pour les habitants de Craon et pour Noël Janteur, le maire de ce petit village avec lequel nous nous baladons.
En 17, ça faisait déjà 2 ans et demi, 3 ans que la guerre faisait rage. C'est bien qu'ici, on est sur un versant sud-sud-ouest. L'hiver 17 a été, de 16 à 17, c'était un hiver très très humide. Mais du fait des bombardements, tous les drainages qui avaient été faits par les anciens étaient perturbés. Et en plus de ça, tous les tranchées françaises étaient dans le fond. Donc tous les tranchées étaient pleines d'eau et de boue. Et on a fait traverser les gars. Bon, vous voyez, vous imaginez une mitrailleuse ici, il n'y avait plus de végétation aussi, il ne faut pas oublier ça. Hein.
Bien sûr.
Tout était rasé, c'était ternu. Hein. Et les gars se sont partis de là-bas, de derrière la butte de Beaumarais. Et là, c'est les bastions de Chevreux qu'on appelle, juste dans ce coin-là. C'est que des marais, tout ça. Donc on a fait traverser les gars dans les tranchées, avec de la boue jusqu'à la ceinture, par un froid, avec 30 kilos sur le dos. Et après, vous voyez pas, mais il y en a un sur 100 qui sont arrivés au pied de la montagne. Là. Vous voyez, c'est une véritable montagne, regardez.
Ouais, ouais.
Et il y a un sur 100 qui sont arrivés là. Mais les gars ici, ils les arrêtaient avec des pierres. Vous imaginez, il y avait des mitrailleuses tout le long. Il y avait des canons tout le long, il y avait un réseau de barbelés tous les 5-6 mètres, là. Donc ils se faisaient prendre dans les barbelés, ils pouvaient pas avancer, les gars, c'était pas possible. Hein. Et puis, bon, les Allemands qui étaient en haut, vous voyez pas la visibilité qu'ils avaient. Dès qu'il y en a un qui arrivait à passer une nuit, bon, boum, il tombait, hein. Boum.
Il devait y avoir des refus, il y a bien des gars qui refusaient de... d'attaquer, il y a des gars qui avaient peur, qui devaient être morts de peur.
Ah bah, non, moi je serais mort de peur.
Ils avaient tous peur. Tous peur. Faut se mettre à leur place. Hein. Ils avaient tous peur. Faut pas raconter l'histoire. Alors pourquoi les mutineries sont arrivées ici ? C'est pas le fait du hasard.
Alors, hein. Les mutineries ont commencé quand ?
À partir du 16 avril, l'échec de l'attaque du 16 avril, 17, C'est ça qui a provoqué le ras-le-bol des troufions, des poilus.
C'est ça.
Donc petit à petit, puis ils ne mangeaient pas beaucoup, ils n'avaient plus de permission, c'était très difficile si vous voulez. Hein. Et c'est bien que quand ils sont revenus en arrière, le bois des couleuvres, c'est juste le bois que vous voyez derrière la butte de Beaumarais là-bas, les mutineries sont arrivées, ont démarré d'ici.
Ah.
Parce qu'ils se sont dit, on ne monte plus à Crâne, c'est fini, on ne monte plus sur le plateau. D'où la chanson de Crâne et tout, c'est pas le hasard, si vous voulez.
Et la chanson en question, on sait quand elle a été écrite, on a une idée là-dessus.
Bah c'est dans ces moments-là, mais on ne sait pas par qui.
On ne sait pas par qui. On sait
elle était interdite de chanter. Il a murmuré dans les tranchées, d'après ce qu'on sait. Il a murmuré dans les tranchées.
Ah.
Non, c'était interdit. Elle était interdite de chanter cette chanson-là. Vous savez, quand vous vous trouvez là, tout seul, vraiment dans votre milieu, parce que c'est mon milieu, puis que vous la récitez, la chanson de Crâne, et puis surtout, vous pensez au gars. Vous vous souvenez, moi je me dis, quand j'avais 18 ans, à quoi je rêvais, quoi.
Ouais.
Et je me dis, eux, ils rêvaient de la même façon, hein, ils rêvaient de la même chose, et puis c'est le contraire qu'on leur a demandé. On ne leur a pas dit, tu vas vivre, on leur a dit, tu vas mourir. Puis quand ils disaient quelque chose, on se dit, t'as rien à dire. Quand ils redescendaient, deux heures après, trois heures après, ils refaisaient un coup de main, ils disaient, mais ça va pas, on vient de laisser une moitié de nos copains, on va pas remonter, allez, hop, fallait remonter. Mon grand-père me disait toujours, les Anglais, leurs machines, les Français, leurs poitrines. Vous voyez, c'est dur, hein. Les Anglais, leurs machines, les Français, leurs poitrines.
Un effort simultané de tous les alliés sur tous les fronts ne pourrait-il venir à bout des empires? Les Allemands sentent venir ce danger et, au printemps, délibérément, ils reculent de quelques kilomètres sur une ligne préparée tranquillement et solidement organisée, la ligne Siegfried. C'est au fonceur Mangin que Nivelle confie le front d'assaut le 16 avril au chemin des Dames. Mais dès le 19, il faut arrêter l'hécatombe. Mangin est relevé de son commandement le 29. Quand on veut reprendre cette désastreuse offensive, quelques régiments refusent de marcher. Et pendant quelques semaines vont se produire ça et là quelques mutineries. Devant ce sinistre plateau de Craon, les soldats murmurent. Et le plus poignant, le plus authentique des chants de combattants se répand malgré les interdictions.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête.
Adieu la ville, adieu l'amour.
Quand vous étiez môme, le grand-père, inlassablement, vous racontait cette histoire, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu.
Oui, oui. Mais pas seulement de la guerre 14-18, si vous voulez. Il parlait aussi beaucoup de la reconstruction après, de la vie après, et puis de la vie avant. C'est-à-dire que la guerre 14 s'est inscrite dans leur vie comme un destin, quoi. À la limite, on se demandait même si c'était, pour eux, c'était même pas un accident, c'était inscrit, comme on dit. C'était inscrit. Ils ont vécu la guerre 14 comme quelque chose qui était inscrit, qui devait vivre. Et quand ils l'ont raconté, ils l'ont raconté comme ça. Comme quand on est une page, on vient au monde, on vit, on est heureux, on est malheureux et on meurt. En fin de compte, ils racontaient leur vie comme ça, avec ces 7 accidents-là qu'il y avait eu. Un accident collectif, quoi, qu'ils l'avaient bien supporté collectivement. C'est pour ça quand même que la mémoire qui se transmet de bouche à oreille a son importance, à mon avis.
C'est la mémoire, il y a la mémoire, et puis il y a l'histoire, qui sont des choses...
L'histoire, nous, c'est une ligne continue, notre histoire, si vous voulez, de la même... Ce qui se transmet de bouche à oreille, c'est une histoire continue. Tandis que la grande histoire, c'est des pointillés à côté, quoi, si vous voulez.
Ouais.
Donc on bouche les trous avec notre histoire, nous. Si vous voulez, pour nous, c'est une histoire qui est continue.
Thank you.
chanson interdite que cette chanson de Craon. Il faut savoir qu'il y a une récompense qui avait été promise, offerte à qui dénoncerait le ou les auteurs de la chanson de Craon. L'état-major avait promis 1 million de francs or et surtout la démobilisation immédiate à qui dénoncerait le ou les auteurs. Et jamais personne n'a dénoncé le ou les auteurs de ces paroles, de cette chanson, ce qui montre assez la solidarité dont les hommes ont fait preuve dans cette détresse, dans ce naufrage extraordinaire. Il y a un bas-relief dans une des nombreuses grottes ou des alentours où un bidas, un poilu, a dessiné un navire qui sombre comme ça, et sur le navire il a écrit ma jeunesse, et c'est cette jeunesse qui sombre dans des flots de sang. Cette conscience revenue, cette dignité qui revient à travers les mutineries, c'est évidemment ce qui nous émeut et ce qui nous étreint aujourd'hui en revenant sur ces endroits où nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont souffert, considéré qu'ils étaient comme moins que viande. Quelqu'un qui est très sensible à ça, c'est un garçon comme Yves Follen. Il est jeune, il a une trentaine d'années peut-être, et il est passionné par tout ce qui s'est passé là, mais pas passionné par les petits soldats de plomb et les machins et les armées qui avancent, qui reculent, les fronts, etc. Ce qui a un côté parfois assez abject au fond. Mais lui, non, il extrait du sens de tout ça, il est passionné par tout ça, il est veilleur de nuit, il n'arrête pas, oui, il n'arrête pas de se... d'extraire, voilà, du sens pour aujourd'hui, Follen.
J'ai l'impression que cette guerre de 14, en fin de compte, on a l'impression que c'est une guerre qui a été voulue quelque part, que ça a été préparé tranquillement. Les hommes politiques ont avoué qu'ils auraient pu l'éviter, cette guerre. C'est une guerre économique, en fin de compte, quelque part. C'est terrifiant à dire. Mais quand on voit le nombre d'obus qui ont été fabriqués, le nombre de balles, de grenades et tout ça, il y a des gens qui ont fait des fortunes immenses avec ça. Immenses. Au prix de la vie des fermiers, des agriculteurs. La guerre de 14, c'est la fin de l'ancienne époque, c'est le début de l'ère moderne, il faut le dire, c'est ça. Il y a un changement qui se fait, il y a de nombreux poètes qui ont senti ce changement. On le voit bien aussi dans le film La Grande Illusion, où il y a la fin d'une caste, la fin d'une époque, et il y en a qui ne veulent pas survivre à ça, ils veulent mourir là parce qu'ils sentent que tout change. La France... L'Europe, le monde n'est plus pareil après la guerre de 14-18, c'est fini.
Vous êtes jeune, vous avez
36 ans.
36 ans, vous vous passionnez pour cette histoire. Quelle est votre motivation? Pourquoi?
Parce que j'ai l'impression qu'on va tourner une page, et je ne veux pas que ces gens qui sont morts de l'Isère à la Suisse soient morts pour rien, et je ne veux pas qu'ils meurent une deuxième fois. Je me dis, derrière chaque tombe, il y a l'histoire. Il y a une femme... un père, il y a peut-être des enfants, il y a quelque chose. Et tout ça s'est perdu. La valeur de l'être humain, qu'est-ce qu'on en fait de la valeur de l'être humain? Prenez simplement un exemple qui est très très loin, à Gallipoli. Les Australiens ont attaqué une position turque, ça s'appelait le neck, le cou. Ils les ont fait charger avec des fusils, baïonnettes, 100 balles. C'était un projet de M. Winston Churchill qui voulait attaquer donc le ventre mou, entre guillemets, de l'Europe, attaquer les Allemands en gros par derrière, quoi. Et bon, ça, c'est quelque chose qui a complètement loupé parce qu'on a mis des mauvais généraux, etc., etc. Et en fin de compte, on a fait broyer la fine fleur, entre guillemets, de l'Australie là-bas pour presque rien. Mais la nation australienne est là-bas.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on a voulu ici, durant cette guerre de 14, massacrer le peuple, c'est votre idée?
Oui, tout à fait. Regardez, j'ai des cailloux de la plage de Gallipoli ici comme symbole.
Des cailloux que vous sortez de votre petit sac.
C'est mes amis australiens qui me l'ont envoyé, parce que pour eux c'est tout. Et je pense à tous ces Français qui sont morts là-bas tout le temps, parce que nous aussi on a envoyé des gens là-bas et qu'on n'en parle pas. On n'est pas très loin de la guerre en dentelle où les grands regardaient les petits se massacrer pendant quelques heures et on recommençait le jour suivant. C'est toujours un peu comme ça. Pour, pourquoi les Américains sont entrés en guerre. On dit officiellement à cause de ces torpillages, de cette histoire du Lusitania, etc. C'est pas vrai. Les Américains sont entrés en guerre parce que les services secrets américains ont intercepté des messages codés entre l'ambassade d'Allemagne et l'ambassade du Mexique. L'Allemagne envoyait des armes et de l'argent au Mexique pour que le Mexique attaque le Texas. C'est encore une histoire de territoire
géopolitique.
Les Américains sont venus mourir en France. Les Américains perdent en 10 mois de leur grande guerre plus d'hommes que pendant toute la guerre du Vietnam. 116 000 tués. 116 000 tués.
Les Australiens, combien ?
Les Australiens perdent 60 000 hommes.
Grande-Bretagne ?
1 million.
France ?
La France ?
1 million 3.
Officiellement. Mais on sait très bien qu'il y a des thèses dans les années 30, des thèses pacifistes qui disent...
Allemagne ?
1 million 7.
Russie ?
2 millions, enfin, mais là aussi c'est très difficile de dire parce que le pays est tellement vaste.
Partout. Canada
Ils perdent en moyenne aussi 60 000 hommes, à peu près.
Total des pertes, Italie.
Il y a 8 000 Sud-Africains aussi. Il y a 300 Maoris.
Venus 300 Maoris qui viennent mourir ici, oui.
Mais c'est complètement fou. Parlons des Chinois, il y a un acte qui est signé entre le gouvernement britannique et le gouvernement chinois le 31 décembre 1916 qui donne droit donc à des travailleurs chinois de venir combattre, enfin de venir aider l'armée britannique derrière parce que les Anglais n'ont plus d'hommes à mettre en première ligne, donc ils ont besoin de main d'œuvre. Ils vont chercher en Chine des Chinois qui viennent de Chine du Nord. Ils les prennent, ces gens-là, en fin de compte, ils sont contents de partir, parce que les conditions de vie en Chine à cette époque-là, c'est l'esclavage. Mais ils sont pris, ils sont mis dans des bateaux, c'est l'esclavage qui recommence, c'est les négriers qui recommencent. Ils meurent par centaines dans les bateaux, à fond de cale. Et ils débarquent à Rouen, ils vont servir à nettoyer les champs de bataille. Ils vont mourir jusqu'en 1921 et peut-être même après. On n'en sort plus de cette guerre de 14, elle est toujours là. Et si vous voulez, il y a 2000 Chinois qui meurent. Il y a... C'est effrayant. Il y a un type en 14 qui a dit « Je leur ai juste repris la longueur de mon corps. » Il est tombé et je leur ai repris la longueur de mon corps. 1m80, 1m70, 1m65, qu'est-ce que c'est ? C'est de la terre, ça ?
C'était une rediffusion du reportage de Daniel Mermet. Merci à Noël Janteur, à Yves Follen et aux habitants de Craon. Merci aussi beaucoup à Raïssa Blankoff qui a participé à la préparation de ce reportage. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, il y avait Éric Morin et Sandrine Laurent. Réalisation Yann Chouquet et Coy Nguyen, bien sûr. Assistante Charlotte Perry et chef du répondeur aujourd'hui, Christophe Humbert, à qui vous pouvez laisser tous vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.